Merci Patrick. Je vous invite à trouver l'évangile de Luc ce matin. L'évangile de Luc. Et je vais commencer ce matin en vous posant une question. Vous savez, Jésus, il a posé beaucoup de questions. Beaucoup de questions lui ont été posées, n'est-ce pas? Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Connaissez-vous, dans votre vie, des gens désagréables? Moi, je n'en connais pas du tout. Non, en fait, c'est faux. J'en connais. Mais des gens désagréables, on en a tous. En même temps, en venant ici en France, parfois les gens ils me disent « Mais Robert, pourquoi est-ce que tu es en France ?» et tout. Et je leur explique qu'entre autres choses, à part le beau pays, à part la bonne nourriture, contrairement à ce qu'on peut croire, en général, les Français sont plutôt agréables. Du moins, les Français que j'ai eu la joie de côtoyer. Alors que, surtout aux États-Unis, pendant une certaine période, et peut-être encore aujourd'hui, on présente les Français un peu comme des gens austères, froids, un peu orgueilleux. Voilà, on est mieux que les autres. Mais ce n'est pas été vraiment mon expérience ici en France. En même temps, si nous sommes honnêtes, nous connaissons tous des gens désagréables. Heureusement, on a des gens agréables dans notre vie, n'est-ce pas? De la famille, des amis, des collègues. Mais il y a toujours cette personne, ou peut-être ces personnes, où on y pense et on se dit « Oh là 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 là, que je ne vois pas cette personne ou que je ne croise pas cette personne aujourd'hui, ma journée serait parfaite. Et là, je croise telle ou telle personne et là, elle est gâchée la journée. » Et on se dit « Mais... les gens désagréables, il y en a. Et en tant que chrétien, que faire de ces personnes? Parce que bien sûr, Dieu nous remplit de son amour, comme Patrick en parlait. Et Dieu nous demande de manifester cet amour envers les autres. Mais avouons-le, et je l'avoue, parfois c'est très difficile. Quand il y a un membre de la famille qui n'agit pas comme il faut, quand il y a un collègue de travail... qui ne fait pas du tout son travail et ensuite ça retombe sur nous. Quand le patron, il est injuste, quand on est face à des personnes qui n'agissent pas comme nous voudrions ou qui n'agissent pas comme ils devraient, qu'est-ce que nous devons faire? Et aujourd'hui, dans l'évangile de Luc, et par la suite, on ira dans le chapitre 22, mais on va commencer au chapitre 9, l'évangile de Luc, chapitre 9, en fait, les disciples étaient confrontés à cette même chose. Alors, à partir de verset 51, Luc, chapitre 9, à partir de verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approchant, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Alors, cela nous paraît assez évident. Nous savons, bien sûr, avec le recul, que c'est à Jérusalem que son arrestation, que son procès, sa mort et même sa résurrection vont avoir lieu. Donc, il est là en plein milieu de son ministère ici sur la terre. Mais Jésus, sachant qu'un jour, il serait livré pour ensuite mourir sur la croix, payer pour nos péchés, il prend cette résolution de se rendre à Jérusalem. Et rien de choquant là-dedans. Rien d'anormal, n'est-ce pas? Il se dit, voilà, je me dirige vers la capitale, vers Jérusalem. Et ensuite, verset 52, regardez, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Là aussi, rien d'anormal. Il envoie des personnes préparer et c'est une bonne chose. Quand même, Jésus allait passer, là, il va du nord vers le sud, il se trouve en Galilée, il se trouve un peu au nord, et pour arriver à Jérusalem, il doit passer par la Samarie, il envoie ses personnes. Et si on s'arrête juste là, on peut se dire souvent, dans notre vie, nous avons des circonstances similaires. Nous faisons des choses qui sont complètement normales. Nous avons nos habitudes qui ne choquent pas, qui ne devraient pas déranger. On fait le plus normal des choses, et peut-être d'autres aussi nous aident dans cela, mais on vit notre vie de tous les jours et on se dit, mais je n'embête personne, je ne dérange personne, je fais ce que je fais, c'est tout à fait logique. Et là, parfois, au milieu de tout cela, on fait face à des gens qui sont désagréables, avouons-le. Verset 53, regardez. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Et on se dit, mais quand même. Alors, si Jésus était un brigand, si Jésus avait de mauvaises intentions, si Jésus allait venir pour tout bouleverser, à ce moment-là, peut-être on arriverait à comprendre les Samaritains qui disent, non, on ne veut pas de toi chez nous. Mais ce n'est pas le cas. Jésus veut tout simplement aller de là où il est, vers Jérusalem. Et ces personnes disent, ben, parce que tu vas vers Jérusalem, et souvenons-nous de l'histoire entre les Samaritains et les Juifs, ils ne s'entendaient pas du tout bien. Les Juifs se croyaient supérieurs aux Samaritains. Les Samaritains, pour eux, c'était des gens de sang mêlé. C'était marié avec des non-Juifs, et donc les Juifs les méprisaient. Les Samaritains, à cause de ce mépris, avaient de la rancune, de la haine envers les Juifs. Et maintenant, cet homme qui se dit le Messie, qu'on dit de lui le roi des Juifs, il va passer par chez nous. Mais en fait, son objectif, c'est d'aller à Jérusalem. Ben ça, on ne veut pas de ça chez nous. Et on se dit, mais quand même, c'est, c'est infantile, là. Franchement, que quelqu'un ne passe pas, qu'on ne lui donne pas l'hospitalité, tout simplement parce qu'il a l'objectif d'aller dans un autre endroit, parce qu'il semble avoir autre chose en priorité, un manque total d'amour, un refus à la fois de la personne et même du ministère de Jésus. On peut dire, ces Samaritains, ils n'étaient pas des gens agréables, n'étaient pas des gens ouverts. Et du coup, nous aussi, peut-être pas de façon aussi drastique, mais parfois on est confronté à des gens qui ne nous aiment pas, qui parfois nous sont hostiles, qui refusent, qui sont peut-être même indifférents pour des raisons qui nous dépassent parfois. Ici, Jésus et les disciples, et on va le voir avec la réaction des disciples, cette réaction des Samaritains les dépassait un peu, surtout les disciples, ils se disent « mais c'est pas normal ». Surtout dans ce contexte du Moyen-Orient, refuser l'hospitalité à quelqu'un, c'était une offense grave. Et c'est là au verset 54. Et cette histoire m'a toujours fait un peu rigoler. Et vous la connaissez sûrement. Les disciples, Jacques et Jean, alors pour une fois, ce n'est pas Pierre qui ouvre la bouche en premier, c'est un peu étonnant, mais c'est Jacques et Jean. Voyons cela dire « Seigneur, et là, on se dit, mais c'est pas possible. Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? » Alors, déjà, comme s'ils pouvaient le faire. Ils ont cette prétention de pouvoir prier à Dieu et faire descendre du ciel le feu, comme Élie, comme d'autres personnages dans l'Ancien Testament. Mais ces deux frères, ce sont des deux frères. D'ailleurs, Jésus va les surnommer les fils du tonnerre. Apparemment, ils étaient assez, de l'avant, extravertis, on peut dire. Et ce n'est pas pour rien qu'avec Pierre, Jésus les prend un peu dans son conseil intime, je suis certain, pour justement les façonner, pour les instruire. Mais ici, ces deux frères, voyant en face d'eux ces gens désagréables, qui ne les recevaient pas, qui leur refusaient l'hospitalité pour quelque chose qui semblait à leurs yeux aussi bête, aussi petite, ils se disent, mais bon, si c'est comme ça, ah ben, ils vont voir, on ne peut pas supporter ça et on va les exterminer. Et quelque part, on les comprend. Si nous sommes honnêtes, si moi je suis honnête, plus d'une fois, nous sommes face à des situations où quelqu'un nous fait quelque chose, ou peut-être quelqu'un ne fait pas quelque chose pour nous, et on le prend comme une offense personnelle. C'est comme si on nous attaque personnellement, et pour quelque chose qui part d'à rien du tout, ben on monte en flèche et on se dit, voilà, si c'est comme ça, ben vous allez voir, et on se met en colère, on monte le ton, et on va dans le débordement, c'est le moins qu'on puisse dire ici, Jacques et Jean, ils sont dans le débordement. Une réaction complètement démesurée par rapport à la réaction des Samaritains. Bon, refuser l'hospitalité, surtout à cette époque, c'était quand même grave. En même temps, vouloir faire descendre le feu sur quelqu'un à cause de ça, à mes yeux, et je crois que vous serez d'accord, ça me semble quand même bien démesuré. Mais comme j'ai dit, parfois, n'est-il pas vrai qu'on agit comme Jacques et Jean? On est face à des personnes qui ne font pas ce que nous pensons et qu'ils devraient faire. On est face à des gens qui ne marchent pas selon la Bible, qui ne font pas du bien autour d'eux, qui peut-être nous font du mal ou qui simplement restent dans l'indifférence. Et face à cela, on a une réaction démesurée. Et nous sommes comme Jacques et Jean. Et là, à ce moment-là, nous manifestons l'orgueil, tout comme Jacques et Jean. Jacques et Jean, ici, ils sont complètement dans l'orgueil parce que déjà, ils prétendent pouvoir accomplir un miracle par eux-mêmes. Faire descendre le feu du ciel. Qui peut faire ça? C'est Dieu. Dieu seul peut faire cela. Mais Jacques et Jean, ici, disent, nous allons le faire. Et peut-être on n'a jamais voulu que le feu descende sur quelqu'un. Peut-être oui. Je ne prétends pas connaître vos pensées. Peut-être on n'est pas allé jusque-là. Mais quelqu'un, en conduisant, quelqu'un fait quelque chose qu'il ne faut pas. Ne met pas son clignotant. Alors on dirait aujourd'hui, le clignotant il est en option sur certains véhicules. Dans un rond-point, ne cède pas le passage. Viens devant nous, ne s'arrête pas à un stop ou même à un feu. Fais quelque chose. Et puis, dans notre pensée, on se dit, non pas qu'il ait un accident grave, mais que quelque chose lui arrive. Et si quelque chose arrive, bien fait pour lui. Il n'avait pas à faire ceci ou cela. Et à ce moment-là, on est un peu comme Jacques et Jean. Ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien. Ça m'a affecté personnellement. Alors, il va voir et on va surenchérir à chaque fois. Dans la famille, moi je sais que j'ai vécu ceci assez souvent avec mes frères, un de mes frères me faisait quelque chose, bien sûr je ne pouvais pas laisser passer ça, donc je faisais autre chose et ainsi de suite. Dans la famille, souvent des relations parfois bien tendues, on n'agit pas toujours comme il faut. Et tout de suite, on tombe dans le débordement. Et quelque chose qui part peut-être d'une petite incompréhension, ce n'était pas volontaire. Ensuite, ça prend une ampleur telle que c'est comme si on demandait le feu, le jugement de Dieu sur quelqu'un pour une petite chose de rien du tout. Et c'est là où Jésus intervient au verset 55 parce qu'il comprend que Jacques et Jean ne sont pas dans la bonne voie. Sont passés complètement à côté de ce que lui, il voulait. Verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Et si on s'arrête là juste quelques instants, si nous sommes honnêtes, parfois, peut-être même souvent, Jésus a besoin de nous réprimander parce que nous allons dans le débordement. Parce que nous n'avons pas la bonne pensée, parce que nous sommes dans l'orgueil. Et à ce moment-là, on va dire, oui, mais Seigneur, tu ne sais pas ce que tel ou tel a fait. Tu ne sais pas comment ceci m'a affecté. Ah bon? Jésus ne le saurait-il pas? Jésus ne le verrait-il pas? Et ici, Jésus se tourne vers eux, il s'adresse spécifiquement à Jacques, à Jean. Il va les réprimander, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et puis ce verset termine, « Ils allèrent dans un autre bourg. » Ces personnes ont refusé l'hospitalité, ces personnes ont refusé Jésus. Jésus dit, « Bon, vous avez fait votre choix. Je ne vais pas insister, je ne vais pas vous obliger à m'accueillir, alors qu'il aurait pu. » Non, il dit, « Je vais permettre à d'autres de bénéficier de mon amour, de mon ministère. » Mais pour Jacques et Jean, Jésus leur dit, « Le but n'est pas de condamner. Le but n'est pas de juger. Le but n'est bien sûr pas de faire du mal, n'est pas de perdre. Mais le but est de sauver. » Et l'optique de Jésus ici est tellement instructive, bien sûr, pour nous. Parce que Jésus voyait ces personnes telles qu'elles étaient, comme des âmes perdues. Et pour nous aujourd'hui, lorsque nous avons cette optique, ça change tout. Parce que notre réaction de vouloir le jugement de Dieu, vouloir faire descendre le feu du ciel, c'est parce que nous sommes dans l'orgueil, c'est parce que nous nous concentrons sur nous-mêmes. C'est parce que nous croyons être offensés personnellement. Notre petite personne prend un coup. Et Jésus ici dit non. Si nous commençons à avoir ces sentiments, réévaluons notre cœur. Parce que les personnes qui sont devant nous sont des âmes précieuses aux yeux de Dieu. Et sont peut-être des âmes perdues. Lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes dans le quartier, lorsque nous sommes un peu partout, c'est surtout des âmes perdues qui sont en face de nous. Et les Samaritains qui avaient rejeté Jésus, qui avaient refusé l'hospitalité, refusé de l'accueillir, c'était des âmes perdues. Et Jésus dit à Jacques et Jean, ayez cette optique-là. Regardez, ces personnes ont besoin du salut. Salut éternel, mais aussi salut de la situation dans laquelle ils sont. Et lorsque nous avons cette optique, lorsque nous pensons alors que nous conduisons et quelqu'un vient tout de suite devant nous, quelqu'un prend notre place de parking, quelqu'un fait quelque chose et on commence à sentir que la frustration, l'irritation monte, souvenons-nous, c'est peut-être une âme perdue. Et qu'est-ce que moi je peux faire pour cette personne, pour la rapprocher du salut? Comment est-ce que moi je peux manifester envers cette personne l'amour de Dieu? Non pas le jugement, la condamnation, mais l'amour. L'amour ne doit pas simplement se manifester entre frères et sœurs en Christ. Mais Jésus a dit, aimez vos ennemis. Aimez les gens qui sont désagréables. Non pas parce qu'ils le méritent, ils ne le méritent sûrement pas, mais parce que Dieu nous demande de le faire. Et parce que ce sont des âmes perdues devant Dieu. Et Jésus ici, il rappelle à Jacques et Jean la perspective éternelle. Lorsque nous sommes frustrés, lorsque nous sommes irrités, lorsque nous voulons que le feu descende du ciel, lorsque nous voulons le jugement de Dieu sur quelqu'un, c'est parce que nous avons perdu cette optique éternelle, cette perspective qui va au-delà de notre petite vie personnelle aujourd'hui. Et attention, comprenez-moi bien, notre vie de tous les jours, elle est importante pour chacun d'entre nous. Je ne suis pas en train de minimiser la vie de chacun. Non, elle est importante. Mais dans le grand plan de Dieu, notre vie qui va durer quelques années seulement n'a pas toute l'importance. Elle est importante aux yeux de Dieu. La vie de chacun est importante. Et nous avons dû prier aux yeux de Dieu. Soyons-en convaincus. En même temps, ne permettons pas à cette perspective de notre vie de cacher la perspective éternelle du plan de Dieu. Et lorsque nous réagissons comme Jacques et Jean, Lorsque nous avons ces pensées, bah, Dieu juge-les, Dieu écrase-les, Dieu rende-leur comment, comme ils m'ont rendu. À ce moment-là, nous ne sommes pas dans la perspective de Dieu. Nous sommes remplis d'orgueil, d'amour propre, et non pas l'amour pour les imperdus. Mais ce n'est pas simplement les inconvertis qui sont désagréables, n'est-ce pas? Bon, les inconvertis peuvent être désagréables, tout comme ils peuvent être assez agréables. Il faut le reconnaître. Mais les enfants de Dieu aussi peuvent être extrêmement agréables, et gloire à Dieu pour cette assemblée ici qui est très agréable. Gloire à Dieu. Merci, ça me rend mon travail d'autant plus facile. Mais en même temps, reconnaissons-le, ne nous voilons pas la face, les chrétiens, les enfants de Dieu, peuvent être désagréables. Je peux être désagréable. Ce n'est pas simplement les autres. Parfois, dans notre esprit, c'est, voilà, les autres sont désagréables, mais moi, attention, moi, je suis toujours agréable. Lorsque j'étais au collège et même au lycée, dans notre groupe de jeunes, j'avais de temps en temps l'habitude de dire, quand je discutais avec mes amis et tout, on discutait de choses et d'autres, et puis je disais, ouais, mais vous savez, moi, je sais tout, et tout le monde m'aime. Alors, c'était quelque chose d'extrêmement orgueilleux, qui n'était même pas vrai, mais bon, j'avais l'habitude de dire ça, et puis ça frustrait au plus haut degré mes amis, parce qu'ils voyaient que, voilà, ce n'était pas le cas. Mais voilà, même les chrétiens, même les enfants de Dieu, peuvent être désagréables. Et pas simplement les autres, mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je peux être désagréable. Je peux refuser l'amour à quelqu'un alors que je suis enfant de Dieu, alors que j'ai bénéficié de l'amour de Dieu. C'est triste, mais c'est une réalité. Et du coup, bien sûr, envers les inconvertis, envers les enfants de Dieu, nous devons être animés d'amour, vouloir le salut, bien sûr, éternel des personnes, mais aussi le salut, c'est-à-dire la délivrance des situations actuelles par lesquelles nous passons aujourd'hui. Et notre réaction face à des gens qui sont désagréables avec nous va révéler ce qui est réellement dans notre cœur. Parce que nous pouvons dire, je suis proche avec Dieu, ma relation avec Dieu, elle est très bien. Mais mettons-nous en face de quelqu'un qui n'est pas agréable avec nous, qui est peut-être un peu hostile, et à ce moment-là, nous allons voir la réalité des choses. Nous pouvons dire une chose, et pourtant la réalité peut être tout autre. Alors, lorsque j'examine ma réaction face à des gens qui sont désagréables, qu'est-ce que cela révèle? Donc ici, Jacques et Jean nous montrent un grand avertissement. Notre réaction naturelle, c'est de vouloir rendre la paille. De dire, on m'a fait ceci, je vais faire pareil ou je vais faire encore plus. Et Jésus dit, non, 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 non. Il faut les voir comme moi je les vois, des imperdus, des personnes qui ont besoin de grandir. On doit chercher leur salut, on doit chercher à les aimer. Alors, Jacques et Jean n'étaient pas les seuls à avoir un problème avec ceci. Allez avec moi maintenant dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, Pierre aussi, il luttait avec ceci. Alors, autant dans Luc chapitre 9, on est face à des gens qui sont plus ou moins indifférents, n'étaient pas ouvertement hostiles, ne faisaient rien de mal à Jésus et à ses disciples, mais c'était plus l'indifférence. Ici, dans ce texte de Luc chapitre 22, nous avons des personnes qui sont ouvertement hostiles, qui veulent le mal, qui sont là dans le but d'arrêter Jésus. Alors, Luc chapitre 22, à partir de verset 47... Comme il parlait encore, ici on est dans le jardin de Gethsémané, Jésus vient de prier son père, et là il revient vers ses disciples, comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle, il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser, Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Et là, verset 49, regardez. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ceux qui allaient arriver, dire, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Alors, Jésus, il vient pour te prendre. Il vient de nuit avec des épées et tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas les laisser faire, quand même. Tu es le Messie. Pierre avait dit, tu es le Fils de Dieu. Et là, ces personnes, cette bande, cette foule arrive et veut t'enlever. Non, mais c'est pas possible, Seigneur. On va battre. On va combattre contre ces personnes. Et verset 50, l'un d'eux, et dans les autres évangiles, on comprend que c'est Pierre, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Donc là, pas simplement les paroles, mais maintenant on passe à l'action. Pierre, il tire son épée et puis il coupe l'oreille de ce serviteur du souverain sacrificateur. Et face à l'injustice, parce que ici, ce qui se passe avec cette bande qui arrive pour arrêter Jésus et tout ce qui tourne autour de l'arrestation et le procès de Jésus, tout est totalement injuste. Rien n'a été fait selon les lois, selon la coutume qu'ils avaient de faire. Et face à cette injustice, face à des gens, on peut dire, désagréables, ici, les disciples disent, on va prendre les armes. On va les combattre et Pierre, il va plus loin que les paroles et il va passer à l'action. Il pensait peut-être qu'il faisait une bonne chose. Là, il protégeait son maître. Quelque part, on peut comprendre son raisonnement. Et comme Pierre, comme les disciples, parfois on est prompt à prendre les armes, à monter le bouclier en disant, voilà, je suis face à quelqu'un qui est ouvertement hostile, je suis face à quelqu'un qui me veut du mal, à ce moment-là, je vais combattre. Et il est vrai, nous avons des armes de l'esprit. Toute cette armure dont Paul parle en Éphésiens chapitre 5 et chapitre 6. Mais ce sont des armes spirituelles et non pas des armes physiques. Et nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à la guerre. Non, nous sommes appelés à l'amour. Et les disciples ici sont malheureusement à côté. Ils sont sûrement bien intentionnés, j'aimerais le croire. En lisant les évangiles, même si les disciples étaient souvent maladroits, je suis convaincu qu'ils étaient quand même bien intentionnés. Et souvent nous sommes comme cela. Nous sommes bien intentionnés, mais parfois nous sommes maladroits. Et au cœur des situations qui sont difficiles, lorsque sur le moment nous avons face à nous quelqu'un qui est hostile, quelqu'un qui est désagréable, quelqu'un qui n'agit pas comme il devrait ou comme nous pensons qu'il devrait, parfois notre première réaction c'est de prendre les armes. Peut-être pas les armes physiques, alors que il est vrai de temps en temps il y a des personnes qui mériteraient une bonne claque, moi le premier. Mais nous disons, voilà, je vais agir, je vais faire quelque chose, cette personne a besoin d'être remise à sa place, a besoin d'être abaissée, je dois faire quelque chose. Et de nouveau, ici, Jésus montre que non, c'est pas ça. Verset 51, Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Aussi injuste que cette situation paraissait aux yeux des disciples, les disciples qui voient leur monde totalement bouleversé, ils croyaient que c'était le maître. Un peu plus tard, dans Luc, les deux disciples sur la route d'Emmaüs, ils vont dire, mais c'est lui que nous avons espéré nous délivrer. Mais maintenant, 3 jours, il est dans la tombe. Toute leur espérance était en Jésus. Et là, ils le voient arrêté. Pour eux, cette situation tellement injuste. Mais Jésus savait que les choses devaient se dérouler de cette façon. Et il dit non. Le plan de Dieu doit s'accomplir. Et cela comprend mon arrestation. Ça comprend toute cette injustice qu'on me fera. Et sur le moment, les disciples n'ont pas compris. Plus tard, en réfléchissant à cette histoire, ils ont compris. Mais sur le moment, ils n'ont pas compris. Et nous, parfois, sur le moment, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que telle ou telle personne agit comme cela envers moi? Pourquoi est-ce que Dieu permet telle ou telle injustice? Pourquoi est-ce que Dieu permet telle ou telle situation dans ma vie? Mais Seigneur, je ne comprends pas. Alors moi, je vais agir pour m'en sortir. Ce n'est pas l'attitude que Dieu veut que nous ayons. L'attitude que Dieu veut que nous ayons, c'est la confiance. Non, laissez le plan de Dieu s'accomplir. Non pas qu'on est passif, non pas qu'on ne fait rien, mais on lui fait confiance. Et puis l'attitude et même l'action de Jésus ici, c'est quelque chose d'incroyable. Après avoir arrêté ses disciples, à la fin de verset 51, juste quelques mots, ayant touché l'oreille de cet homme, il est guéri. Alors, ce serviteur, cet homme, faisait partie de la foule qui était venue arrêter Jésus. Faisait partie de ces personnes qui voulaient du mal à Jésus. Et notre propre réflexion nous pousserait à croire que, bon, bien fait pour cet homme, il a perdu son œil, bah, il n'avait qu'à rester chez lui, ne pas se mêler de cette affaire. Alors bon, il a une oreille en moins, bah voilà. Il avait il me semble que j'ai dit œil tout à l'heure. Il a une oreille en moins, bah voilà. Heureusement, il est en vie, bah, qui se croit heureux. Mais Jésus, ici, pour un de ses ennemis, sans que cette personne le lui demande, va guérir complètement cet homme. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est la seule fois dans tous les évangiles que Jésus va guérir une blessure. Toutes les autres guérisons que Jésus va accomplir, ce sont soit des délivrances de possessions démoniaques ou des guérisons de maladies que les gens vont avoir pour plus ou moins longtemps. Et ici, c'est assez intéressant. Jésus, un des derniers miracles qu'il fait, il guérit un de ses ennemis d'une blessure qu'il n'a pas mérité à avoir. Et nous voyons l'attitude de Jésus, à la fois plein d'amour, plein de compassion pour cette personne, entièrement soumise à la volonté de son Père, prêt à aller jusqu'au bout. Et l'attitude de Jésus, est-ce qu'elle est notre attitude lorsque nous sommes confrontés à des gens devant nous que nous ne comprenons pas, qui sont peut-être dans l'erreur, qui cherchent peut-être activement à nous faire du mal? Est-ce que nous avons cette attitude de Jésus où on est rempli de compassion? On leur fait même du bien alors qu'ils cherchent à nous faire du mal? Et dans notre monde aujourd'hui, qui va de mal en pis, où chacun cherche ses propres intérêts, on le voit de plus en plus. En tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Face à des gens qui deviennent de plus en plus désagréables, qui deviennent de plus en plus hostiles, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que, en même temps, nous allons aussi devenir désagréable envers eux, en disant, mais de toutes les façons, ils ne connaissent pas Dieu, je peux agir comme cela envers eux? Ou est-ce que nous allons avoir l'attitude qu'avait Jésus face à ces villes samaritaines, face à cette foule qui est venue l'arrêter pour dire non, je me confie en Dieu? Et j'ai cette perspective éternelle et peu importe ce qu'on peut me faire, peu importe l'indifférence, peu importe l'hostilité, peu importe le rejet, le refus que je peux ressentir dans cette vie, je sais que je suis le Seigneur. Je me confie en lui et que ce soit des proches, que ce soit des totales inconnus, ma réaction face à ces personnes et ce qu'ils me font va révéler mon niveau de maturité spirituelle, va révéler ma relation avec Dieu. Les disciples avaient passé pratiquement 3 ans avec Jésus. Et jusqu'au bout, malheureusement, ils n'avaient pas compris. Et on peut les critiquer pour cela. En même temps, combien d'années de vie chrétienne avons-nous ? Par la grâce de Dieu, j'ai plus d'une 20aine. Et je loue le Seigneur pour cela. Mais avec toutes ces années passées avec le Seigneur, avec tout ce qu'il m'a permis de vivre, d'apprendre, d'expérimenter, je dois avouer que je n'agis pas toujours comme je devrais. Je n'ai pas toujours l'attitude que je devrais. Je suis plus comme Pierre, Jacques et Jean, prompte à monter en flèche en disant, voilà, je vais lui rendre l'appareil. Et je dois toujours laisser Dieu me reprendre, comme il a repris Jacques et Jean, en disant, non. Cet esprit-là ne vient pas de moi. Cet esprit-là ne va pas accomplir ce que moi je veux. Il faut que tu laisses la volonté de Dieu s'accomplir. Et nous, combien de vies chrétiennes avons-nous ? Chacun se pose la question. Et avec ces années plus ou moins longues que nous avons vécues avec le Seigneur, avons-nous grandi en confiance en lui ? Avons-nous grandi dans notre attitude vis-à-vis des gens qui ne sont pas très gentils, qui ne sont pas très agréables envers nous? Il est facile, quand quelqu'un est agréable avec nous, de lui être agréable. Ça, c'est facile. Ça ne demande pratiquement aucun effort. Ce qui demande de l'effort et ce qui exige la grâce de Dieu, c'est d'être agréable, montrer l'amour, montrer la compassion envers ceux qui sont désagréables. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à chercher la facilité, faire toujours ce qui est facile. Nous sommes appelés à obéir à Dieu et ça c'est difficile, voire impossible par nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Jésus, bien sûr, entièrement soumis à son Père, pouvait agir et agissait toujours comme il fallait. Nous avons l'Esprit de Christ en nous si nous sommes sauvés et cela est possible aujourd'hui. Alors cet après-midi, nous aurons un ensemble d'activités ici à l'église, peut-être vous en aurez chez vous. Demain, certains d'entre nous retournent au travail. Dans la semaine, on va faire face à différentes personnes dans la famille, au travail, au magasin, un peu partout, qui seront plus ou moins agréables. Et nous aurons l'occasion de mettre ces paroles en pratique. Nous aurons l'occasion de manifester l'amour, de surprendre quelqu'un qui a tellement l'habitude qu'on ne soit pas gentil avec lui, parce que cette personne n'est pas gentille et désagréable. Nous aurons l'occasion de manifester cet esprit de Christ envers cette personne. Il y aura aussi la tentation de mal agir. Il y aura la tentation d'être désagréable avec les gens qui sont désagréables avec nous. Mais devant cette tentation, Dieu nous donne le moyen de nous en sortir. Dieu pourvoit sa grâce pour surmonter n'importe quelle tentation. Et aujourd'hui, cette semaine, lorsque nous serons confrontés à agir comme Jacques et Jean et Pierre, arrêtons-nous. Demandons à Dieu de nous remplir de son amour, de sa compassion, d'avoir cette perspective éternelle, de lui faire entièrement confiance. Et nous allons voir que c'est un changement radical, que les gens en face de nous ne vont pas comprendre. Lorsqu'on réagit bien envers quelqu'un qui réagit mal avec nous, ça les arrête tout de suite, ça les bouleverse, ils ne comprennent pas. Et cela vient de Dieu. Et quelle occasion de témoigner nous aurons. Alors, comment est-ce que nous serons cette semaine ? Comme ces hommes impestifs, Jacques, Jean, Pierre, ou allons-nous ressembler à Jésus-Christ dans son amour, dans sa compassion ? Nous savons ce que Dieu attend de nous. Prenons cette décision aujourd'hui de ressembler à Jésus-Christ dans cet aspect de notre vie. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons pour ta parole qui nous montre ce que tu attends de nous, qui nous montre que c'est possible. Là où tu nous montres la faiblesse humaine, tu nous montres aussi que tu es capable de nous fortifier. Et Seigneur, nous demandons ton aide pour agir comme toi, que tu enlèves l'orgueil, même la haine qui pourrait exister dans notre cœur, que tu enlèves l'indifférence, le manque d'amour, le manque de compassion, que tu nous remplisses de ton amour, que tu nous donnes d'agir comme toi, peu importe les circonstances, que tu enlèves toute excuse de notre vie, que nous te fassions confiance, que nous soyons entièrement soumis à toi, et que nous puissions te voir agir dans les différentes circonstances auxquelles nous serons confrontés cette semaine, devant les différentes personnes que tu mettras sur notre route. Guide-nous, transforme-nous, Seigneur, que nous nous laissions remplir par ton esprit pour agir de façon radicale pour toi, et que tu reçois toute l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras dans la vie de chacun d'entre nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen.